Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Bonsoir à tous, 18h30 à Bamako, 19h30 à Niamey et 14h30 à New York. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, le président Donald Trump a prononcé son premier discours devant les Nations Unies. L'ONU se penche également sur l'impasse politique en RDC. Conflit entre éleveurs, Mbororo et agriculteurs dans le village de Botombo au Cameroun.
Les populations agriculteurs, dans leur tête, ils sont propriétaires des terres. Et la population éleveur est considérée comme...
Reportage de notre correspondant Jules Emmanuel tape dans cette édition. Nouvel ouragan dévastateur dans les Caraïbes. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Début ce mardi des discours officiels à l'Assemblée générale annuelle de l'ONU à son siège à New York. La session de ce matin a été marquée par les allocutions du secrétaire général des Nations Unies, du président guinéen et celle très attendue du président américain. Donald Trump a notamment beaucoup parlé de la Corée du Nord. Pour lui, les États-Unis n'auront pas d'autre choix que de détruire totalement, je le cite, ce pays si son gouvernement ne renonce pas à ses ambitions nucléaires. À New York, le compte-rendu de Jacques Aristide.
Son tout premier discours devant cette Assemblée générale et le locataire de la Maison Blanche n'y est pas allé de main morte. Rocketman court à sa perte et à celle de son régime. Avertissement du président Trump au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Il a invité ses pairs à contribuer à l'isolement de Pyongyang et à l'amener à renoncer à son comportement hostile. Au sujet de l'Iran et de son programme nucléaire, Donald Trump a indiqué que le dernier mot n'avait pas encore été dit sur l'accord conclu avec Téhéran, qualifiant la République islamique d'État voyou économiquement aux abois qui exporte la violence. Mais il a tenu tout de même à rassurer la communauté internationale de l'engagement américain dans le monde.
I will defend America's interests.
Je défendrai plus que tous les intérêts de l'Amérique. Mais dans la mise en œuvre de nos obligations à l'égard des autres nations, nous considérons également que l'intérêt général est de faire en sorte à ce que toutes les nations aient droit à la souveraineté, à la prospérité et à la sécurité.
Une première également à cette tribune pour Antonio Guterres, le patron de l'ONU, qui a pris la relève de Ban Ki-moon en début d'année, et lui non plus n'a pas manqué d'évoquer la Corée du Nord, mais il a plutôt invité les chefs d'État et de gouvernement à faire preuve de responsabilité pour éviter un conflit armé avec ce pays.
No one is winning today's wars.
Personne ne sort vainqueur des conflits d'aujourd'hui, que ce soit en Syrie, au Yémen, au Soudan du Sud, dans la région du Sahel ou en Afghanistan. La paix passe exclusivement par des solutions politiques. Ne nous leurrons pas, nous ne pourrons pas éliminer le terrorisme si nous ne réglons pas les conflits qui provoquent le désordre où les extrémistes violents prospèrent.
Sur la question des réfugiés, Antonio Guterres, qui a dirigé le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, a regretté que certains leaders mondiaux exploitent cette crise à des fins politiques. Du côté africain, c'est le chef d'État guinéen Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, qui a ouvert le bal pour le continent. L'Afrique, dit-il, a décidé de se prendre en charge et de parler désormais d'une seule voix pour trouver des solutions à ses problèmes. Mais pour lui, le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a la responsabilité primaire du maintien de la paix et de la sécurité dans le monde, ne reflète plus les réalités actuelles.
Comment comprendre que l'Afrique, qui constitue la troisième puissance démographique du monde, ne soit pas représentée à un niveau approprié au sein de ce Conseil de sécurité, alors que 70% des questions et débats concernent l'Afrique? Nous exigeons l'élargissement du Conseil de sécurité dans les deux catégories de membres, dont deux sièges permanents et un total de 5 sièges non permanents pour l'Afrique, choisis par l'Union africaine.
En marge de cette grand-messe diplomatique, de multiples réunions à thème, climat, esclavage moderne, impasse politique en RD Congo, entre autres, se déroulent tout au long de la semaine au siège de l'ONU ou dans de grands hôtels de New York.
Et New York toujours, où l'impasse politique en République démocratique du Congo est au menu des discussions qui se tiennent aujourd'hui en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Pendant ce temps, l'opposition congolaise présente fait entendre sa voix et exige une transition sans le président Joseph Kabila. Plus de détails avec Eddie Isango.
Pour prévenir les vides juridiques et les chaos qui se profilent à l'horizon devant la perspective de la non-tenue des élections le 31 décembre 2017 ou plus tard, nous exigeons une transition sans M. Kabila, disent dans un communiqué des opposants congolais avec à leur tête Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi. L'opposition récuse la CENI dans sa configuration actuelle. Le président Kabila est devenu illégal et illégitime, a confié à VOA Afrique Floribert Anzulini, signataire du texte. Les opposants accusent M. Kabila de mauvaise foi et de vouloir se maintenir coûte que coûte au pouvoir. M. Kabila n'est plus un interlocuteur valable, soutiennent-ils. L'appel de l'opposition tombe alors qu'une des réunions devrait se tenir, selon un responsable de l'ONU qui cite l'AFP, sous la présidence du secrétaire général adjoint Jean-Pierre Lacroix, avec pour objectif d'ouvrir la voie à des élections crédibles. L'initiative entend favoriser une meilleure coordination des efforts internationaux, régionaux et sous-régionaux pour la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. La tension monte à l'approche de la date butoir du 31 décembre 2017 pour organiser la succession du président Joseph Kabila. Le président congolais devrait prononcer son discours à l'ONU samedi.
RDC toujours, 17 corps ont été repêchés aujourd'hui dans les eaux du lac Édouard, situé dans l'est du pays. Selon Joy Bokele, administrateur du territoire de l'Ubéro dans le Nord Kivu, 17 civils se sont noyés alors qu'ils fuyaient les affrontements entre des Mai Mai et des militaires des forces armées de la RDC. Au Congo-Brazzaville, deux ONG demandent la libération d'un journaliste indépendant emprisonné sans jugement depuis plus de 8 mois. Gis Fortuné Bemba est éditeur du journal Thalassa. Reporters sans frontières et le Comité pour la protection des journalistes ont adressé une lettre ouverte au président Denis Sassou Nguesso pour lui demander sa libération immédiate. La tension monte au Togo autour de la révision de la Constitution qui sera désormais votée par référendum après une première consultation parlementaire boycottée aujourd'hui par l'opposition. Le projet de loi soumis au Parlement, qui propose notamment une limitation du nombre des mandats présidentiels, n'a remporté que 62 voix sur 91, soit le nombre exact de députés représentant le parti présidentiel au Parlement. L'opposition a appelé demain à de nouvelles manifestations pour demander la démission du président Faure Gnassingbé. Au Kenya, le président de la Cour suprême, David Maraga, a dénoncé aujourd'hui les menaces formulées par des responsables politiques et leurs partisans contre son institution. Des centaines de partisans de M. Kenyatta ont manifesté devant la Cour suprême. Omar el-Béchir, le président soudanais, a exhorté les déplacés du conflit du Darfour à retourner chez eux dans un discours retransmis en direct par la télévision d'État où il a affirmé « Le Darfour a commencé à se remettre de la guerre, mais le redressement s'achèvera lorsque nous aurons récupéré les armes ». Les États-Unis ont appelé le gouvernement éthiopien à enquêter sur des violences meurtrières qui ont éclaté ces dernières semaines dans le sud du pays entre deux principales ethnies du pays, poussant des dizaines de milliers de personnes à fuir leur foyer.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde, vent violent, pluie torrentielle. Après Irma, c'est au tour de Maria de dévaster la Caraïbe. L'ouragan de catégorie 5 a balayé les petites Antilles la nuit dernière, frappant essentiellement la Dominique, les Saintes et la Guadeloupe. Morgan Guiriec nous en dit plus.
Le gouvernement britannique, par exemple, a annoncé la suspension de son programme d'entraînement de l'armée birmane, accusée d'atrocités multiples lors de sa campagne contre les militants musulmans de l'état de Rakhine dans l'ouest de la Birmanie. Plus de 420 000 personnes, membres de la minorité Rohingya, ont traversé la frontière pour chercher refuge au Bangladesh. Si Aung San Suu Kyi a promis ce mardi de faciliter leur retour, elle n'a offert aucune solution concrète. Toutefois, ce qu'on reproche le plus à la lauréate du prix Nobel de la paix, c'est son refus de dénoncer le comportement des militaires birmans. Dans son discours prononcé à Nay Pi Taw, la capitale de Myanmar, le nouveau nom de la Birmanie, le plus important personnage politique du pays a déclaré que justice sera faite, mais il faut d'abord que les allégations soient fondées, qu'il y ait des preuves solides avant toute mesure contre ceux accusés de violation des droits humains. Des rebelles Rohingyas ont attaqué l'armée le 25 août dernier, provoquant des représailles sévères qui ont débouché sur la crise actuelle.
Alors bien entendu, vous avez reconnu la voix de Gaby Dorsil qui nous parlait de la crise des réfugiés musulmans en Birmanie. Et bien entendu, maintenant, je vous propose les conséquences donc et la suite de Irma, l'ouragan Maria de catégorie 5 qui a dévasté cette nuit la Caraïbe.
Les habitants de ces îles, qui connaissent pourtant bien les cyclones, décrivent une nuit éprouvante. Et pour cause, les vents ont soufflé à quelque 260 km/h, avec des rafales encore plus violentes. Rémi de Kermadec, un Guadeloupéen, témoigne.
Du vent soutenu, incessant, et de la pluie qui ne s'arrêtait pas. On n'a pas dormi de la nuit, quoi.
Est-ce que vous avez eu peur ?
Oui. Deux, trois moments, quand même, ça tremblait, on se demandait d'où ça venait, quoi. C'était le vent qui faisait trembler un peu les vitres, les fenêtres et la pluie, quoi. Hein. Et quand il y avait des bourrasques, on se demandait si ça n'allait pas exploser, quoi. Il y a des toits qui ont été arrachés, hein. Coupure d'électricité, les routes barrées à cause des arbres qui sont tombés et beaucoup d'eau, inondation.
La Dominique voisine a été frappée beaucoup plus sévèrement. L'île a perdu tout ce qui pouvait être perdu, d'après les mots du Premier ministre Roosevelt Skerrit, qui a lui-même vu s'envoler le toit de sa maison, comme un grand nombre de ses concitoyens. L'île demeure injoignable, mais d'ores et déjà, il faut s'attendre à des inondations, car il n'existe pas moins de 365 rivières sur ce territoire d'à peine 750 km². Quant aux Saintes, petit archipel du sud de la Guadeloupe, aucune nouvelle pour le moment. Maria se dirige maintenant vers les îles Vierges et Porto Rico.
L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco présentée ce soir par Pascal Serra. C'est la Minute Éco présentée par Pascal Serra.
En Égypte, les derniers chiffres publiés par l'USDA, le département américain de l'agriculture, sont encourageants pour le coton égyptien, reconnu pour sa très grande qualité. Les exportations ont cru de près de 20% au cours de la campagne 2016-2017, tandis que les surfaces de culture ont augmenté. 89 000 hectares sont cultivés, soit près du double de l'année précédente. Cette année, l'Égypte a par ailleurs interdit les semences de moindre qualité pour jouer à fond la carte haut de gamme. Vodafone Cameroun a arrêté ses services Internet dans la nuit du 14 septembre 2017 jusqu'à nouvel ordre, à la suite d'une notification de l'Agence de régulation des télécommunications qui invoque la loi régissant les modalités d'établissement. À cette date, Vodafone Cameroun déclare avoir reversé 3 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun, dont 2 milliards au titre des droits et taxes et 1 milliard de francs CFA au titre de frais de régulation. La compagnie s'inquiète de la perte de 1055 emplois créés. Le Fonds d'appui africain pour le développement de l'entreprise lancera d'ici 2018 une initiative pour booster l'entrepreneuriat féminin dans l'agriculture en Afrique subsaharienne. Il s'agira de mettre une assistante technique et managériale à disposition de femmes porteuses de projets, sélectionnées lors de concours sur la base de plusieurs critères, innovation et faisabilité commerciale notamment.
Maintenant, la page sport, présentée ce soir par Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Nous parlons foot bien sûr et nous démarrons avec le tournoi de l'UFOA. Aujourd'hui, place à la troisième et dernière journée des matchs de la poule B.
Après la claque infligée par le Sénégal 4-0, les écureuils du Bénin face au leader de ce groupe B, le Niger, et puis la Côte d'Ivoire face au Sénégal. Hier dans le groupe A, le Nigeria a battu le Ghana déjà qualifié 2-0. Cette victoire des Super Eagles sur les Black Stars permet au pays de se qualifier. La Guinée et le Mali sont éliminés après leur match nul, un but partout.
Le feuilleton autour du match Afrique du Sud-Sénégal se poursuit.
Et oui, souvenez-vous, cette rencontre remportée 2-1 en novembre dernier par l'Afrique du Sud devant le Sénégal. Eh bien, cette rencontre va être rejouée, c'est ce qu'a décidé la FIFA. Et la FIFA qui a suspendu l'arbitre à vie, eh bien, la Fédération Burkinabé de football ne l'entend pas de cet avis. Et elle porte plainte et fait appel de cette décision de rejouer le match devant le tribunal arbitral du sport pour violation des règlements de la FIFA. Affaire à suivre.
Ousmane Dembélé a été opéré en Finlande.
L'attaquant français recrue phare du FC Barcelone a été opéré avec succès de la cuisse gauche en Finlande. C'est ce qu'annonce le club catalan qui confirme également l'indisponibilité de Dembélé jusqu'au début 2018. On rappelle quand même que la facture est salée pour Barcelone puisqu'ils ont payé le joueur 105 millions d'euros plus 42 millions de bonus, soit le plus gros transfert de l'histoire en Espagne.
On joue ce soir en Allemagne.
En s'imposant 4-0 samedi contre Mayence, le Bayern de Munich a provisoirement déminé la crise qui couvait. Mais le champion d'Allemagne affronte un défi bien plus difficile ce soir face à Schalke 04 pour la 5e journée de la Bundesliga. Actuellement, le Bayern et Schalke sont respectivement 3e et 4e du classement. Les deux équipes sont à un point du leader Dortmund et du promu Hanovre qui compte 10 points chacun. Le Bayern et Schalke 04 sont respectivement 3e et 4e du classement à égalité avec 9 points. Ils ont devant eux le Borussia Dortmund.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Le président Donald Trump s'est adressé pour la première fois devant l'Assemblée générale des Nations unies dans le cadre de la 72e Assemblée générale de l'organisation. Monsieur Trump est resté fidèle à son message de campagne de mettre les intérêts américains en premier. Il a également salué les efforts des leaders africains dans la mise à disposition de casques bleus pour la résolution des conflits en Afrique. Pour une analyse, Arzuma Compaoré a joint l'ancien secrétaire d'État pour les affaires africaines pour le président George Bush père, l'ambassadeur Herman Cohen.
Oh, je crois qu'il a dit certaines choses qu'il a dit aussi aux Américains dans la campagne. Dit que nous devons défendre les intérêts des États-Unis d'abord. Et il a encouragé tous les autres membres des Nations Unies de faire la même chose. Défendez-vous vos peuples d'abord, et après nous pouvons coopérer pour la paix et pour la prospérité dans le monde. Et il a dit qu'il y a certains pays qui menacent la paix, et c'est surtout la Corée du Nord et l'Iran. Il a souligné ces deux pays qui soutiennent les terroristes, qui sont en train de produire les armes nucléaires. Et ça fait une grande menace pour la paix dans le monde. Et aussi, il a parlé des terroristes, Hezbollah, l'État islamique, etc. Donc, il y a beaucoup de menaces. Il faut lutter contre ça.
Par rapport à l'Afrique, Trump a aussi mentionné des nouvelles résolutions.
Il a félicité les Africains et l'Union africaine pour fournir des casques bleus, des soldats, pour trouver une résolution au conflit en Afrique. Et je crois que c'était une bonne chose que le président reconnaît la contribution des Africains. Je suis très content d'avoir entendu ça. Je crois que c'est ce que les Africains attendent. Et je crois qu'il a parlé des grands programmes des présidents précédents. Ça veut dire qu'il va continuer d'encourager les programmes pour la santé, pour l'électricité, etc. Donc je crois que c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique.
C'est le genre de message que les Américains attendaient de lui?
Oui, tout à fait, tout à fait. Il a utilisé le même langage qu'il utilise tous les jours avec les Américains.
Est-ce qu'on peut considérer que cette première sortie au niveau de l'Assemblée nationale des Nations Unies était une réussite?
Je crois que c'est une réussite. C'était clair, c'était transparent, c'était pas subtil, mais tout le monde comprend maintenant la politique des États-Unis.
Herman Cohen, ancien secrétaire d'État pour les affaires africaines pour le président George Bush père.
Salut, c'est Nathalie Barge. Juste un petit mot pour vous rappeler de ne pas manquer Le Monde au féminin ce mardi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique. Selon de nombreuses études, les femmes sont plus exposées aux assauts du stress que les hommes. Et oui, la femme moderne est généralement débordée. Alors comment optimiser une vie bien remplie 7 jours sur 7 sans stresser? Ce sera l'objet d'une discussion avec Khadidia Viviane Doumbia, experte en genre et éducation. Le Monde au féminin, c'est tous les mardis à 19h, temps universel, en direct sur la page Facebook de VO Afrique et en rediffusion le samedi à la même heure. À très bientôt.
À Alors que les opposants congolais Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi se retrouvent à New York, où les Nations Unies se penchent sur l'impasse politique en RDC, le président Joseph Kabila inaugure un forum pour la paix au Kasaï, boycotté par l'opposition. Nathalie Barge a joint à Kananga, où se tient le forum, le coordinateur du réseau Jeunes dans le Monde pour la paix, le RJMP, Edel Martin Kabutakapwa, qui a alerté à maintes reprises sur les violences dans sa province, mais n'a pas été invité aux discussions.
L'issue dépendra de l'inclusivité de toutes les forces vives de la nation. Mais avoir les courses que les uns et les autres se font, et même les choix des participants sans des critères valables, sans des critères objectifs, l'issue est incertaine et l'après-forum risque d'être pire que l'avant-forum.
Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi sont à New York. Et Joseph Kabila, lui, est dans le Kasaï. Quelle analyse faites-vous de ce cas de figure ?
Si Joseph Kabila est au Kasaï, il a privilégié, selon lui, il a privilégié la paix au Kasaï. Mais si Moïse Katumbi et Félix se trouvent à New York en tant qu'opposants, nous pensons que c'est pour influencer la communauté internationale dans le sens de montrer que les choses ne tournent pas en République démocratique du Congo. C'est un problème maintenant entre la majorité, l'opposition et la course au pouvoir. Je me dis si ce n'est pas une stratégie aussi politique dans ce sens, pourquoi mettre à la même période ces deux événements alors que c'était aussi important que le chef de l'État soit à New York pour la séance qui se tient.
Selon vous, notamment dans le Kasaï, comment faut-il résoudre cette crise ?
On doit négocier la paix. Négocier la paix, c'est comme ce genre de forum, ce genre de rencontre. Mais tout dépend des organisateurs, donc de ce qu'ils veulent réellement et sincèrement. La violence, qu'elle vienne de l'État, donc qu'elle soit une violence officielle ou qu'elle vienne des individus, nous condamnons la violence de toutes sortes. Mais ce que nous devons aussi comprendre, c'est que derrière chaque violence, il y a un conflit qui se trame et qu'il faudra chercher les mécanismes qui engendrent ce genre de comportement, mais aussi valoriser les énergies nouvelles et constructives qui peuvent contenir, sinon éliminer, ces pulsions destructives. Donc il faudra que toutes les parties se retrouvent, que toutes les parties se parlent de façon sincère et qu'on puisse aider à pouvoir maintenant surmonter, à construire une paix durable. Parce qu'au moment où je vous parle, même au niveau du Kasaï, il y a partout des militaires qui sont envoyés. Mais à un certain moment, ce sont des plaintes de la population, des citoyens qui disent qu'il y a des tracasseries, qu'il y a des arrestations, qu'il y a des escroqueries. Tout ça, ce sont des attitudes qui peuvent encore engendrer la violence, des révoltes et en quelque sorte, lorsque les gens se sentent humiliés, ça ne favorise pas la cohésion, ça ne favorise pas la paix que nous sommes en train de rechercher.
Edel Martin Kabutakapwa, coordinateur du RJMP et président provincial de la Société civile du Congo, il était joint à Kananga en RDC.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Les rapports entre éleveurs Mbororo et agriculteurs dans le village de Botombo sont de plus en plus conflictuels. Ces éleveurs venus du Nigeria et du nord du Cameroun occupent un terrain du domaine national à 252 km de Yaoundé dans l'arrondissement de Bokito. Mais leur présence, qui dure depuis 5 ans déjà, n'arrange plus les agriculteurs. C'est le constat de notre correspondant Emmanuel Jules Tape qui s'est rendu sur le site.
Le campement des Bororo du village Botombo est constitué de 200 ménages pour une population de près de 1000 personnes. Avec elles, des bœufs qui sont devenus une source de conflits permanents, comme le témoignent deux agricultrices dont les champs sont voisins au campement Bororo dans le village Botombo.
Ça fait gaffe dans nos champs. Tout de suite, là, on part, tu vas voir.
On reste sans manger. Ça sera le problème de Dieu. Donc, c'est pour cela qu'on laisse tout passer.
Ils sont là depuis combien d'années?
Ça fait pratiquement 5 ans que les gens là sont ici.
Pour éviter le pire, des mécanismes de résolution des conflits ont vu le jour ici, sous les auspices d'un médiateur entre éleveurs Bororo et agriculteurs du village Botombo. Soule Lakoudi est le médiateur.
Parfois, que nos éleveurs, quand ils ne comprennent pas le français, je vais descendre au terrain, je vois comment le bébé a fait le dégât. Si c'est quelque chose qu'on arrange ça, nu deux, personne qui le sent à l'obé, si accepte ce que je dis, le prix que Dieu, j'ai accepté, je lui donne, ni vu, ni connu. Ça me dépasse, j'ai saisi le chef de village, ils nous ont fait la convocation, on le saisit là-bas.
Malgré ces médiations, les Bororo n'échappent pas aux considérations culturelles et ethniques, Sa Majesté Michel Amata, chef traditionnel de Botombo.
Les populations agriculteurs, dans leur tête, ils sont propriétaires des terres. Et la population élevée est considérée comme étrangère. C'est un concept qui est là.
Venus du Nigeria et du nord du Cameroun, les Bororo du village Botombo ont d'abord transité pendant 10 ans dans le département du Noun, région de l'Ouest. Éternels étrangers aux yeux des autochtones, là-bas, ils ont trouvé refuge 500 kilomètres plus loin, à Botombo, sur un site qui ne leur appartient pas, quoique inhabité auparavant. D'où le rôle d'assistance à leur côté des équipes de la plateforme de la stratégie nationale d'engagement sur la gouvernance foncière, dont Adamu Youssoufa, un membre.
On les donne des consignes. Ils sont sur le domaine national. Quand ils sont là avec les bœufs, ils font suivre la procédure de concession. Ils voient que c'est le sous-préfet qui donne le terrain.
10 ans après la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le sort des Bororo du campement de Botombo inquiète le Centre pour l'environnement et le développement, une organisation de la société civile camerounaise qui milite, entre autres, pour le droit foncier. Issa Bachirou Manjo travaille pour le CED.
Nous avons beaucoup de défis en ce qui concerne les réformes foncières. Aujourd'hui, ces gens sont dans une situation où ils n'ont pas droit à ces terres où, quand ils venaient, il n'y avait personne qui était déjà arrivé là-bas.
À Botombo, personne ne peut dire avec exactitude ce que seront demain les Bororo de ce village sans terre et dont la présence demeure conflictuelle. Yaoundé, Emmanuel Jeloutap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
La fête annuelle des éleveurs du Niger, la cure salée, s'est tenue ce week-end à Ingal, dans la région d'Agadez. Ingal, une localité au bord du désert, à peu près à 1000 km de Niamey, la capitale, sert en effet chaque année à la mi-septembre de lieu de regroupement des pasteurs des différentes contrées du pays. Les moments forts de cette fête, dans ce reportage de notre correspondant Abdoul Razak Idrissa, qui s'est rendu sur place.
Pas trop loin de la tribune officielle dressée pour le cérémonial d'ouverture se trouve le camp des éleveurs venus à la fête de cette année, la 53e édition de la cure salée. Quelques animaux traînent encore le pas, la majorité étant déjà partie paître dans la vallée de l'Irazer, connue pour sa végétation herbacée et ses sources d'eau riches en sels minéraux. Les éleveurs pasteurs ayant quitté le sud du pays pour cause du début de la saison des cultures hivernales se retrouvent ainsi chaque année dans ces plaines du nord. Medaji Ngol, patriarche natif de Ingal, rappelle l'historique de cette cure salée.
Avant même que l'État ne s'implique, avant l'indépendance, les éleveurs, c'est des manifestations entre eux. Vous savez bien qu'au sud, là, il y a trop d'éleveurs. Les zones pastorales, ils viennent à Ingal. Donc ceux qui viennent à Ingal, ils ont des terroirs d'attache. Ils choisissent Ingal parce que le pâturage salé, c'est ce qui amène les animaux ici. Dans le temps, c'est 3 mois. Les grandes endémies, ils viennent ici, ils font 3 mois à sillonner la brousse. Les services d'élevage aussi. Il y a beaucoup de services qui arrivent au niveau central. Et ils font toutes les activités. Il y a la vaccination, il y a la santé humaine, il y a la sensibilisation, le message de l'État vers la population. Et les populations, leur message vers l'État. Les administrateurs et les administrés discutent ensemble.
Depuis, la rencontre s'est modernisée et a pris un caractère beaucoup plus officiel sans toutefois perdre son côté festif à l'image des défilés et concours de beauté. Concours de meilleurs chameaux harnachés et de meilleurs dresseurs de chameaux ou encore les fantasias et autres compétitions. Une vraie ambiance.
La fête cette année a été extraordinaire. Les images se passent de tout commentaire. Et je crois que c'est la bénédiction de Dieu.
Pour le chef du gouvernement nigérien, Brigitte Fini, qui est aussi originaire de la zone, la principale leçon qu'il faut tirer de cette édition de la cure salée est l'adhésion visible des populations aux idéaux de la paix et de la sécurité.
L'esprit est exceptionnel. J'ai vu des populations, ça se lit dans leur visage, qu'elles adhèrent aux idéaux qui sont ceux de la paix et de la sécurité.
Razak Idrissa, de retour de Ingal pour VOA Afrique.
Participer à la plan aux
001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique, à la mise en onde, Cheikh Thiero, à la console, Sidrak Franklin et Bill Barber, au micro Claire Morin-Gibourg. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.